Ce tragédien qui fait rire, Popek.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Il était une fois une drôle d'histoire entre un comédien et son double. Le premier voulait jouer les grands textes du répertoire, le second était planqué derrière un attirail, chapeau, redingote, moustache, semblant sortir d'un ghetto d'Europe centrale avec un baluchon d'histoire aux accents ashkénazes. Le premier se faisait appeler Jean Herbert, le second était connu sous le nom de Popek. C'est donc l'histoire d'un tragédien planqué dans le corps d'un humoriste, situation d'ailleurs qui rappelle plus ou moins les propos du psychologue anglais Winnicott qui disait « Se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé est une catastrophe ». Popek, aujourd'hui 86 ans, 40 ans de carrière dans cette rediffusion en sol majeur, réalisée au moment des Gilets jaunes, notre drôle de tragédien est prêt à bougonner avec un spectacle intitulé « Même pas mort », toujours en tournée, et un récit intitulé « De qui tu tiens ce don-là ». Bienvenue, cher Popek.
Merci.
Est-ce que j'ose vous demander comment vous allez ?
Mais je vais bien.
Question difficile à un pessimiste comme vous.
Je vais bien, oui. En ce moment, je suis très en colère contre ce qui se passe, quoi.
Ah oui ?
On empêche les gens de travailler, de vivre. Il n'y a qu'à regarder, il y a des gens qui ont besoin de vivre, il y a des gens qui ont besoin, des chômeurs qui ont besoin de travailler. On n'a pas la sécurité de l'emploi, nous.
Vous êtes d'ailleurs le dernier comédien... salarié, comme vous dites.
Exactement. Donc pas comédien, mais humoriste.
Humoriste.
Les humoristes ne sont plus salariés.
Alors, Popek, je sais que vous êtes un pessimiste professionnel. C'est Popek, justement. Et pour les auditeurs du monde qui n'auraient pas en oreille le parler, le vrai parler de Popek, un petit extrait de votre spectacle intitulé « Même pas mort ».
On me pose souvent cette question, à savoir d'où ça vient, Popek. Je ne vais pas vous raconter ma vie. En vérité, je suis né à Paris. De parents émigrés, moitié polonais par ma mère, roumain par mon père. À ma naissance, on vivait dans une chambre de bonne, sans la bonne. Ça, j'avais pas trouvé le gros lot à ma naissance. C'est ainsi qu'un jour, j'ai suivi l'enterrement d'un banquier célèbre, le baron de Rothschild. Au cimetière, je pleurais, à vous fendre l'âme. Une dame très distinguée s'est avancée vers moi, elle m'a demandé « Vous êtes de la famille ?» J'ai dit « Non, madame, c'est bien pour ça que je pleure. » Alors papa, lui, il était bonimenteur, vendeur de caleçons de molletonnés, figurez-vous, devant la banque Rothschild, justement. Et ils s'appartaient comme des petits pains. Il faut dire qu'à l'époque, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui. Et on faisait la queue pour acheter ses caleçons. On ne pouvait pas imaginer, évidemment, où il avait des amis qui le sollicitaient pour lui emprunter de l'argent. Et mon père disait, malheureusement, j'ai passé un accord avec la banque derrière moi. Eux, ils n'ont pas les droits de vendre des caleçons de molletonnés. Et moi, j'ai pas les droits de prêter de l'argent.
À ça vaut son pesant de Popek, un petit chouïa en sol majeur de Popek. Pas un spectacle sans caleçon molletonné. Mais vous n'êtes pas content en vous écoutant?
Non, j'ai écrit un livre, c'est jamais l'auteur qui choisit les titres. Ça, c'est scandaleux, c'est comme le film, c'est le producteur.
Vous n'êtes pas d'accord avec Même pas mort?
Non. Quand j'ai demandé au producteur pourquoi Même pas mort, il m'a dit parce que je suis sûr qu'on te posera la question et ça sera drôle. Et il avait raison. Et puis le livre, c'est « De qui tu tiens ce don-là ?» Ça veut rien dire, c'est prétentieux en plus comme titre. C'est parce que j'avais raconté que mon père, j'avais honte de son accent, j'avais honte d'entendre mon père que j'imite si bien. C'est pas une imitation d'ailleurs, c'est une... comment vous dire ?
Incarnation ?
Une incarnation. Et mon père, il dit « Toi qui es si timide, toi qui... je comprends pas. » Quand il a vu que j'avais le premier prix, j'avais 22 ans chez Simon, et il a dit « Je me demande de qui tu tiens cette don-là, ça peut pas être des moi. » Il a réfléchi, puis il a dit « Ça doit être ta mère, elle mentait tout le temps. »
C'est quand même une phrase de votre père, donc elle a du sens.
De oui, qui mais tu tiens ce don-là ? Il voulait mettre avec l'accent. J'ai dit avec l'accent, personne ne va comprendre.
Alors, ce spectacle, comment on le présente ? Est-ce que c'est une rétrospective de votre très longue carrière de Popek ?
Oui.
Agrémentée de nouveaux sketchs ? Comment ça se passe ?
Oui, mais je n'ai pas voulu mettre des choses qui auraient certainement accroché les médias. Ça, je reconnais, c'est-à-dire des choses terribles. Par exemple, l'homme que je suis ne serrerait pas la main au jeune homme que j'ai été.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, peut-être qu'il y a des choses que... Bon, je vais vous dire la vérité.
Alors, dites-moi.
Si j'avais mis un titre quand j'ai porté l'étoile...
Vous auriez voulu mettre...
Non.
Non.
Jamais. Mais ça aurait accroché. Quand Ruquier m'a demandé dans son émission « Vous, Popek, vous êtes juif ?» Et si je lui avais répondu « Non, je l'ai appris à l'âge de 6 ans, je commençais à savoir lire quand on m'a cousu l'étoile jaune. » Et là, je scotchais tout le monde. Mais je n'ai pas dit ça. Alors, vous allez me poser la question « Popek, vous êtes juif ?» Je vais vous répondre.
Vous êtes juif, Popek ?
Ça dépend, c'est pour quoi faire. Et là, j'ai fait rire tout le monde. C'est tout ce que je voulais.
Oui, mais ça, c'est toute l'histoire de votre vie. C'est-à-dire que vous vivez avec un double. Mais on va raconter l'histoire petit à petit. Hein. Un double qui vous permet de dire certaines choses.
C'est pour vous dire
que vous ne pourriez pas dire peut-être. Ce Popek vient de loin. Et pour être sincère, il doit tout à un certain Yutka Epstou. C'est votre vrai nom. Né à Paris en 1936.
Je vais dire la vérité. Oui.
Ah, d'accord, ça commence bien. On va rétablir toutes les vérités.
Non, c'est vrai que sur l'ordinateur, d'accord. C'est marqué 36.
35.
Ça va Internet, oui.
Et autant dire que votre enfance n'a pas été que tendre.
Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir. Aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entehrung, das fragen wir nicht.
Ici, comme.
Bei Diktaten wirken wir nicht mit.
Je me souviens.
Sie mögen ein Diktat als Diktat uns aufoktroyieren.
Avoir 5 ans et dans l'oreille... La voix d'Hitler, ça ne s'oublie pas. Et là, je m'adresse à Yutka, donc au petit enfant.
Non, pas du tout, heureusement, quand on a un enfant.
Vous me laissez finir ma question, puis je vous dirai ensuite. J'imagine que vous avez eu 5 ans et que vous avez peut-être entendu la voix d'Hitler. En tout cas, vous l'avez demandé pour un sol majeur.
Oui, mais j'avais
de
pas
quoi,
peur.
De
ça
quoi
me
vous
faisait
vous
pas peur. D'abord, on ne l'appelait pas Hitler, on l'appelait Hitler. Non, les enfants, on ne savait pas prononcer Hitler. Et on chantait... Hitler en pyjama. Non.
Donc Hitler, c'est pas forcément associé à un souvenir sombre. Mais si je vous demande un souvenir de votre mère, Popek.
J'en ai pas.
Qu'est-ce qui s'est passé pour votre mère?
Je sais pas ce qui s'est passé. C'est qu'elle est morte à Auschwitz, c'est tout.
Un jour, vous avez été quand même en possession d'un document ?
Oui, parce que quand on est connu, on reçoit, il y a des gens qui ont la gentillesse de leurs petits-enfants, de gendarmes ou quoi, de l'époque, qui ont retrouvé des archives, des papiers, qui ont la gentillesse de vous les envoyer. Quoi.
Vous vous souvenez de ce qu'il y avait sur ce document qui venait du tribunal du commandement du département de la Seine, daté du 8 mai 42 ?
Je me souviens, non, mais comme il m'a envoyé le document, je l'ai mis dans le livre.
Ouais. Mais ça vous intéresse quand même de savoir pourquoi votre mère, sur quel argument elle a été envoyée à Auschwitz?
Bah, parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir après 20 heures, elle était au restaurant. Et donc elle a eu une amende, elle a été convoquée au commissariat de police, et elle a été condamnée à 3 mois de prison parce qu'elle n'est pas venue. Et pour cause, elle était déjà à Drancy, via Auschwitz.
Alors vous allez devenir vous-même, donc là je m'adresse au petit Yutka, c'était votre prénom sur l'état civil.
Oui, et
oui.
Je détestais ce prénom. Yutka, ça, en français ça s'écrit Jutka, parce qu'on m'appelait Jutkafé, Jutkafar, quand c'était pas Jutkaka. Et je dis simplement, de ma mère je n'ai aucun souvenir. La guerre est passée par là, et la génération de mon père qui en avait échappé ne parlait pas. Donc je n'ai su que plus tard, beaucoup plus tard, que le nom de ma mère a été gravé au mémorial de la Shoah.
Donc vous allez devenir ce qu'on appelle un enfant caché, à partir de quand?
Caché, hein.
Vous vous cachez bien.
Il
ouais,
faut bien rire.
À partir de quand vous êtes un enfant caché?
42. Bah, c'est quand il y a eu la loi de porter l'étoile à l'âge de 6 ans. Donc l'OSÉ, qui était clandestine, a caché des enfants.
Alors l'OSÉ, il faut rappeler ce que c'est? Qu'est-ce que vous cherchez?
C'est un organisme, je cherche mon mouchoir.
Vous cherchez un mouchoir?
Alors oui, si j'ai fait des choses pour rire, c'est parce que je n'ai jamais voulu parler de ma vie. Voilà. Parce que là où l'enfant ne pleure pas, quand vous arrivez à un certain âge, ça vous pète à la gueule. Voilà.
Donc vous êtes un enfant caché, on revient à cette histoire-là.
Ouais, ouais, ouais.
Et vous êtes caché grâce au réseau...
De l'OSÉ, clandestin, œuvre de secours aux enfants, qui est né en Russie, du temps des tsars. Voilà. On va pas faire l'émission là-dessus, quand même.
Non, on fait juste un portrait de vous, en se demandant comment on devient Popek. Et ça fait partie du trajet. Alors, cette histoire d'enfant caché, qui est compliquée, bien sûr...
J'ai qu'un regret, c'est de pas aller voir les gens chez qui j'étais pendant la guerre, qui ont été des braves gens, qui étaient payés. Attention, ce sont pas ce qu'on appelle des justes. Ils ont été rétribués. Par qui, je ne sais pas. Est-ce que c'est par mon père? Est-ce que c'est par l'OSÉ? J'en sais rien. Mais ce n'était pas gratuit. Ils n'avaient pas que moi. Ils avaient d'autres enfants. Juifs ou pas juifs. Eux, ils s'en foutaient. Vous savez, dans les villages, ils étaient planqués, les Allemands. Ils étaient planqués. Il y avait peut-être des Français qui étaient plus dangereux que les Allemands pour les dénonciations.
Cette enfance cachée, on va peut-être passer justement par le cinéma, parce que ça va permettre de dire aussi d'autres choses. Elle a été un peu racontée dans un film que vous m'avez soufflé à l'oreille, un film de Claude Berry qui s'appelle « Le vieil homme et l'enfant », qui date de 1966 et qui raconte comment justement, sous l'occupation allemande, un petit enfant juif est envoyé sous un faux nom à la campagne, chez un vieil homme antisémite.
Et puis, parle-moi encore des juifs.
Les juifs, ça c'est un sujet inépuisable, ça. C'est un sujet en or.
Comment on peut les reconnaître?
Je te l'ai déjà dit, ils sentent mauvais.
Tous?
Tous.
Même ceux qui se lavent?
Ça n'a rien à voir, ça. Tu prends un bouc, tu le laves pendant 3 heures, mais un quart d'heure après, ils sont encore mauvais. Puis même si tu en trouves un qui sent pas mauvais ou que tu sois enrhumé, tu le reconnais. Je le retenais au nez, ils ont des crochus là, en forme de hameçon. Là.
Pourquoi faire?
Pour attraper les billets. Parce que ça, pour attraper les billets, ils en connaissent un bout. Ils courent plus vite à la banque qu'au casse-pipe.
Alors ce film, Le vieil homme et l'enfant, donc avec l'étonnant Michel Simon,
extraordinaire.
Qui joue donc le rôle d'un vieil antisémite.
Et l'enfant, le fils de Berry aussi.
Absolument. Ça vous rappelle votre enfance cachée à vous, Popek?
C'était tout à fait ça.
C'est-à-dire que vous avez joué avec la crédulité de ceux qui vous cachaient. Est-ce qu'ils étaient antisémites,
c'est
ceux
tout,
qui vous,
pas du tout.
Qui vous protégeaient
jouer.
Et qui vous cachaient?
Un enfant ne joue pas. Un enfant, il joue à être l'enfant, c'est tout.
Parce que dans le film de Claude Berry, l'enfant s'amuse du caractère antisémite.
Il était déjà plus intelligent que moi. Il était le fils des bourgeois, sûrement, alors que mon père était un ouvrier.
Mon père était
ouvrier massicotier.
Et alors
oui, mais mon père était... Il n'y avait pas d'études chez nous, pas d'école, rien du tout. Donc, si vous voulez, le gosse était sûrement plus intelligent que je l'étais à l'époque. Moi, je pensais uniquement à l'époque à jouer au cow-boy et au voleur, c'est tout.
Mais vous saviez que vous étiez là parce que vous étiez un petit enfant juif et que c'était dangereux.
Je m'en foutais, on n'en parlait pas. On était tous pareils, les plus intelligents y pensaient. Mais moi, pas du tout. Je faisais partie des cancres. Mais si je n'avais pas été un cancre, je ne serais plus là aujourd'hui. Je pensais, je vois ma vie de cancre.
Vous vous souvenez du jour où on vous a cousu cette fameuse étoile?
Oui, très bien. C'est marrant parce que c'est la concierge qui me l'avait cousu.
Mais la concierge... L'étoile jaune, vous a été cousue par la concierge?
Oui, parce que mon père était... je pense qu'il couchait avec... D'ailleurs, tous mes amis, c'était les fils de concierges pendant la guerre.
Alors, votre père appartient évidemment à cette génération qui ne peut pas parler de la Shoah, qui n'en a quasiment jamais parlé. Mais est-ce que vous savez ce que votre père pensait du régime de Vichy?
Malheureusement, je ne l'ai jamais interrogé.
Mais est-ce qu'il était en colère par rapport au régime de Vichy?
Pas du tout. En colère, sûrement. Puisque, je me rappelle... Il discutait comme ça avec un marchand pendant la guerre. Hein. Un commerçant, ça je m'en souviens, qui lui a dit « c'est pas un juif qui va la ramener ». Et il a répondu « j'ai fait la guerre de 14-18 et j'ai vu la merde ». J'ai fait la guerre de 14-18.
Et toutes ces phrases, vous les entendiez?
Ah ouais.
Elles étaient gravées. Hein.
Aggravées.
Tout en ayant honte, vous dites, de ce père.
Oui, honte, oui. Où j'ai plus eu honte, c'est après la guerre, quand j'ai travaillé dans... Il y a eu d'un seul coup un essor des juifs rescapés. Donc il y avait tous les accents. La Lituanie, la Pologne, la Russie, la Hongrie. Et comme j'ai l'oreille musicale, très musicale, mon grand regret, c'est d'avoir pas peaufiné la musique. Donc tout ça m'est rentré dans l'oreille, tous ces accents.
Alors le théâtre, il va poindre son nez assez vite dans votre vie, dans votre cœur, ainsi que l'amour pour une certaine Juliette, et tout ça, dans ce Paris des années 50 que vous croquez à merveille, cher Popek.
Alors, je mets mes lunettes parce que c'est écrit petit.
Il n'y a pas la caméra, ça va.
Parce que mon premier métier, j'étais apprenti ébéniste opticien. On fabriquait des lunettes pour les cuvettes des WC. Bon, alors je vous lis, hein. Le quartier dans les années 1950 ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui. C'était avant tout le programme de restauration lancé par le ministre André Malraux. Les beaux hôtels étaient occupés par des garages et des ateliers. Les filles faisaient le pied de rue, place des Vosges. Les Algériens du FLN et du MNA s'affrontaient à coups de revolver dans les bars de la rue Saint-Antoine. Notre logement s'abritait dans une véritable demeure construite sous Louis XIII. Mais le carrelage faisait des bosses, les fenêtres laissaient passer les courants d'air, et les marches et l'escalier étaient si inégales que les visiteurs ne manquaient jamais de trébucher, voire de se casser la figure. Nous avions une hauteur sous plafond variable entre 1m70 et 1m85. De Gaulle n'aurait pas pu s'y tenir debout, mais Ben Gurion y aurait été très à l'aise. Quand Juliette faisait sa toilette, l'eau se faufilait dans l'appartement du dessous et je descendais avec une cuvette pour la récupérer. Il n'y avait aucune raison d'en faire cadeau à la voisine.
Bizarre. Qu'est-ce qu'il a ? Votre couteau.
Comment ?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que...
Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre ?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre.
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Ma combine, c'est un fric-frac chez le patron à Marseille.
Et pourquoi tu m'envoyais pas cambrioler la banque de France pendant que tu disais ?
Et alors, t'en as jamais cassé les coffres ? Et j'allume-moi avec Cédric pour quoi que c'est fait.
S comme séquence sépia.
Avec des voix inoubliables parler du théâtre d'abord. Le goût du théâtre qui va rapidement vous tomber dessus, Popek, est la première à repérer ce don chez vous. Le cancre, hein, puisque vous parlez de vous en des termes incroyables. Oui. C'est la directrice du foyer de Saint-Hilaire, une certaine Siam Moussman. Mais votre maître... Votre véritable maître, c'est un certain René Simon. Ça va donner le cours Simon. Alors, qu'est-ce qui se passait dans son cours à lui de si magique pour vous ?
D'abord, quand vous arrivez, il y a un respect de 200-300 élèves. Le lundi soir, en entrant en religion, pendant 3 heures, à l'écouter.
Il jouait lui-même devant
vous. Et je me souviendrai toujours. Je suis arrivé, je me suis assis. J'avais passé une audition. Et il a fait « Herbstu, t'es là ?» Un mal de timide, je dis. Oui, patron, parce que tout le monde l'appelait patron. Il a levé le doigt et il a fait. Un des élèves les plus doués du cours. Alors là, ma petite personne. Et au bout de 6 mois, il m'a dit, si tu te bottes pas le cul, tu t'en vas.
Et ça voulait dire quoi, se botter le cul ?
J'étais trop timide pour monter sur scène.
Et c'était quoi votre emploi à ce moment-là ? Vous étiez pressenti pour jouer des rôles comiques ou des rôles tragiques ?
Pas du tout. C'est lui qui m'a situé, Chmerdyakov, de Dostoïevski, des frères Karamazov. Un type avec un teint pâle, bizarre, maladif, Crime et Châtiment. Voilà, il me situait là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai joué tous ces rôles-là.
Époque dominée donc par des Louis Jouvet, des Michel Simon et autres Arletty, dont on vient d'entendre la voix. Et époque où vous choisissez, Popek, un pseudonyme pour vous avancer dans le métier.
C'est René Simon qui m'a dit « On te volera toujours une lettre ou deux au passage. Herbst
» Donc vous choisissez quoi comme pseudonyme ?
J'ai vu passer un camion, les transports Herbert. Alors j'ai dit « Tiens, je vais m'appeler comme ça ». J'ai gardé un prénom que j'avais pendant la guerre, Jean, d'ailleurs on m'appelait Jeannot.
Et de quoi rêvait Jean Herbert ?
Il rêvait. C'est ça qui est grave, c'est que Je n'avais pas l'intelligence d'un Lucini, je rêvais pas de littérature, ça c'est sûr. Alors que je lisais, mais c'était des dons, tout m'est arrivé comme ça, par des dons. Et c'est uniquement quand je suis arrivé au métier, finalement la vocation qui est devenue un métier, d'être Popek, que j'ai compris que le don, c'était de la merde si tu travailles pas.
Mais avant d'arriver à Popek, il y a tout un chemin et puis...
Bien sûr, j'ai joué...
Dostoïevski,
Simone de Beauvoir...
Simone de Beauvoir.
Anouilh,
ah oui.
Sartre. Et si vous voulez, je m'étais focalisé sur un comédien mystique qui s'appelait Charles Denner.
Ah bah ça tombe bien.
L'homme qui aimait les femmes.
Il a une voix tellement reconnaissable.
D'abord, on n'a pas volé Georgette, parce qu'il n'y avait rien à voler. Ensuite, elle était trop bien pour connaître quelqu'un d'assez moche pour la tuer. Même un flic peut comprendre ça. Enfin, si on peut se fier à la phrase ignominieuse d'un journaliste, il a fallu 3 minutes à Georgette pour mourir. Et quand je pense à ces 3 minutes, j'ai envie de faire sauter Paris. Parce que c'est pas la peine de suivre les cours du soir de la préfecture de police pour comprendre que 3 minutes, c'est un peu trop pour un professionnel, et que le salaud qui a fait ça, c'est un amateur et de la pire espèce.
Ouais, allons-nous-en parce que je vais lui casser la gueule et ce sera râpé pour mon avancement.
Encore une chose. J'ai vu dans le couloir le minable et l'abominable. C'est la sœur et le beau-frère de Georgette. Alors sauf votre respect, autant éviter aux flics des enfantillages qui coûtent cher aux contribuables. C'est des affreux. Pire, des bien intentionnés et bavards. Ce qu'ils vous diront, c'est aussi vrai que l'apocalypse. Ils ne connaissaient pas Georgette. On ne connaît pas les gens qu'on n'aime pas. Ils vous diront mieux.
Alors, Popek, que vous inspire pour un seul majeur la voix de Charles Denner ?
J'ai honte de n'avoir pas su lui dire « je t'aime ». J'ai honte de l'avoir imité.
Vous l'avez imité ?
Mais grâce à lui, j'ai connu Charreur. J'ai connu Pierre Prévert. Grâce à lui, il m'a porté.
Il vous a aidé ?
Il m'a emmené à l'écluse. Sans lui, Popek n'était pas né. C'est lui qui m'a emmené à l'écluse, c'est lui qui m'a amené à Pierre Prévert. Non, il ne m'a pas amené à Pierre Prévert, il m'a dit « va voir Pierre Prévert ». Et moi j'ai téléphoné, j'ai dit « bonjour, vous savez que je ne peux pas faire ». Mais je l'imitais beaucoup mieux avant. Mais je vais vous envoyer un comédien qui est extraordinaire, il s'appelle Jean Herbert.
Mais en fait, votre timidité, que vous soulignez beaucoup, elle s'envole quand vous rentrez dans le costume de ce fameux Popek qui va prendre forme petit à petit.
Oui.
Au début, avec des blagues juives.
Il n'est pas timide, lui, Popek.
Non.
C'est pas moi, Popek. C'est toujours pas moi.
C'est papa et tous les copains...
Ouais. Dès que je prenais l'accent, les plus grands comédiens de la pièce dans laquelle je jouais venaient autour de moi. Dès que je prenais l'accent. Et ça, c'était un signe, mais je ne le savais pas. Jacques Prévert, le frère de Pierre, Jacques le grand poète, m'a dit « Tu as une photogénie et une présence chimique ». Quand ton visage se tourne d'un côté ou ton accent, tu changes complètement de... C'est pour ça que c'est très difficile de te distribuer.
En tout cas, ce personnage de Popek prend de plus en plus sa place dans le métier, en évinçant de plus en plus l'autre.
Je dirais que c'était plus un comédien, j'étais devenu, sans le savoir, un produit. C'est un produit qu'on vend. Donc beaucoup de gens ont gagné de l'argent sur moi.
C'est très difficile ce que vous dites là.
À commencer par l'Olympia, à commencer par le Palais des Congrès, le Casino de Paris, tout le monde a gagné de l'argent.
Alors avant toutes ces grandes salles, il arrive un jour où vous êtes engagé par un certain Gérard Oury, le grand réalisateur,
oui,
pour jouer dans Rabbi Jacob, immense succès en France à ce moment-là, plus 7 millions d'entrées ou quelque chose comme ça, avec un certain Louis de Funès dans le rôle de Victor Pivert. Oh, je crois qu'on ne va pas résister à la scène.
Vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver.
Quoi donc ?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste ! Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palot, tu trouves pas ? Avec ce petit bouton.
Et son cheveu sur la langue ?
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif ? Comment, Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh !
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif.
Ben si.
Mais toi, t'as d'autres familles.
Si.
Tout est, ça fait rien, je vous garde quand même.
Alors, vous me parliez des Rabbi Jacob.
Délicieux Louis de Funès, donc, qui joue le rôle d'un bourgeois français, évidemment, antisémite, on l'aura compris, et qui se retrouve dans le rôle et dans le costume d'un rabbin. Donc, oui. Et il va se prendre d'affection pour vous sur ce tournage, oui. Popek. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez séduit?
Parce que je faisais du cabaret, parce qu'il avait commencé par faire du cabaret. Et parce que certainement que j'imposais une présence qui faisait partie des dons que j'avais, quoi.
Mais comment votre personnage dans ce film, personnage, il s'appelle Moïse Schmoll, se transforme, oui, en grand rôle secondaire?
Oui, comment il se transforme en grand rôle secondaire, c'est exact. Mais cela dit, Uri m'a tendu une perche énorme que je n'ai pas attrapée. C'est-à-dire qu'il comptait sur moi pour apporter sur ce film. Vous savez, quand Tori m'a téléphoné un matin en me disant « il faut que tu rencontres les producteurs, ils veulent te garder ». Les producteurs, pourquoi voulaient me rencontrer? Ils vont se dire « combien il va nous demander ?» J'ai rien demandé. Mais si j'avais été un mec intelligent, j'aurais dit à Tori « je veux bien rester sur ce film, mais je veux une vraie scène avec De Funès ».
Alors on va raconter l'accouchement de Popek, on pourrait dire ça comme ça, et puis la disparition de Jean Herbert, mais après un petit Papa Outé version Stromae que vous avez programmé en sol majeur.
J'adore.
Ah ouais?
J'adore Stromae.
Ah bon?
Ah ouais.
Mais c'est une bonne nouvelle, Popek est bien connecté aux années 2000.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? We'll be right back.
pas sur RFI. Popek, le doyen français de l'humour, a bien programmé en sol majeur Stromae. Ça fait du bien, hein, Jutka Epstu, alias Popek,
ah oui,
qui depuis plus de 40 ans de carrière doit tout lui aussi à son sacré papa.
P comme persona, personnage.
Alors votre carrière, Popek, à partir des années 70, c'est un peu cabaret, un peu café-théâtre,
oui, oui, oui.
La télé aussi qui arrive, donc notamment avec l'ami Philippe Bouvard. Et puis un jour c'est décidé, le comédien Jean Herbert que vous êtes, c'est de votre premier pseudonyme, disparaît complètement derrière l'humoriste Popek. Ça vient d'où ce nom, Popek ?
Popek, alors, en polonais, Tchepek, c'est un violon grinçant. Un violon grinçant, donc un homme grinçant, un râleur. Et j'ai fait un numéro avec ça, au Music Hall, avec le violon. Et je veux dire que les gens, ils n'en peuvent plus, hein, parce que c'est la vérité, je ne sais pas jouer du violon.
Alors, Tchepek, mais c'est devenu Popek.
Alors, une nuit comme Beethoven, qui a entendu pom 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 pom, j'ai entendu Popek. Je vous jure que c'est vrai. Comme Moïse, il a entendu l'Éternel qui l'a appelé, et Moïse, arrivé là-haut, il lui a dicté les commandements, et après le dixième, Moïse a demandé c'est tout, et l'Éternel lui a répondu « Prends déjà ça, si ça s'évente bien, j'en écrirai d'autres ». Alors moi, pour moi, ces paroles étaient divines, et je me suis mis à raconter les miennes. Elles sont peut-être pas divines, mais devinez combien j'ai gagné à les raconter.
C'est quoi la biographie de Popek ? C'est quoi son histoire, au fond ? Si vous deviez raconter la vie de cet homme-là que vous campez, il vient d'où ?
D'où ça vient, Popek ? On me pose souvent cette question-là. Dans quel état êtes-vous né ? Dans un état lamentable. Toute ma famille était très pauvre. Mon père, ma mère, ma sœur, la femme de chambre, la cuisinière, les chauffeurs. Je savais que ma pauvreté vous ferait un sourire.
Oui.
C'est parce que je n'ai pas voulu vous attrister avec ma vérité.
Mais vous vous planquez encore.
Formidable.
Vous jouez tout de suite
Popek. C'est formidable,
hein,
parce que vous me tendez une perche. Vous savez que De Vos ne faisait pas autre chose. Quand on lui posait une question, il répondait par un sketch, comme je viens de le faire devant vous.
C'est un juif non assimilé, on pourrait le présenter comme ça.
Oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi-même, je suis laïque. Je le dis la vérité,
ouais,
que ça plaise ou que ça
c'est
plaise pas.
C'est comme ça que vous donnez la définition de la non-assimilation, c'est joli.
Je ne suis pas assimilé, non. Je suis laïque, c'est pas pareil.
Mm-hmm. Est-ce que le personnage plaît à la communauté juive quand il arrive sur scène ?
À mes débuts, non. Parce qu'on se disait, il n'y a que des goy dans la salle, donc des non-juifs, donc ils se moquent. Dans la vie, il n'a pas d'accent, donc ce n'est pas un juif. Il se moque des juifs.
Mm-hmm.
Voilà l'impression que je donnais au départ à mes coreligionnaires ashkénazes.
Ça s'est rétabli ensuite.
D'Europe centrale.
Ouais. En tout cas, dans votre spectacle Même pas mort, rapidement, il y a des nouveaux sketchs avec ce fameux Popek, et puis aussi, bien sûr, des sketchs vintage. Exemple.
Figurez-vous que l'autre soir, j'ai sorti d'un restaurant de la Porte Maillotte où que j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de ne pas regarder à la dépense. Surtout que j'étais seul. C'est-à-dire qu'on s'était disputé le matin, elle n'avait pas voulu venir, et je me suis dit, si je remets ça demain, on sera peut-être réconciliés, ça va m'écouter les doubles. Surtout qu'on ne s'était pas disputé pour grand-chose. Elle me dit, oui, depuis qu'on est mariés, tu ne m'as jamais rien acheté. J'ai dit, mais chérie, tu ne m'as jamais dit que tu avais quelque chose à vendre. Elle est très susceptible. Je ne sais pas comment on a fait. Vous savez, la première fois que je l'ai vue, elle sortait de chez la fleuriste. Un gros bouquet de roses entre les bras. Ça a été le coup de foudre, je vous le dis franchement. Je lui ai dit, mademoiselle, si vous saviez comme j'aimerais être à la place de ces roses, rien que pour être serrée dans vos bras. Elle me répond sans se retourner, ne vous y fiez pas, dès qu'elles arrivent chez moi, je leur coupe la queue.
Popek sur scène et dans le fauteuil dans Sol majeur sur RFI. Vous vouliez me dire un petit commentaire en vous écoutant ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai entendu des phrases qui sont dans d'autres sketchs, qui ne sont pas du tout là. Et c'est Jacques Prévert, le frère de Pierre, avec qui j'ai tourné Les Compagnons de Bâle, qui m'avait donné ses conseils. Tu fais comme moi pour mes collages. Quand tu as un mot, tu le mets là, un autre mot, tu le mets là. Et après, tu assembles comme des petits trains.
Ouais, c'est comme des motifs.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur le caractère de ce personnage ? Bon, on a dit beaucoup qu'il était râleur, pingre, extrêmement pingre.
Je vais vous dire ce que m'ont dit mes régisseurs. On a travaillé avec Dassin, on a travaillé avec Sardou, on a travaillé avec... Aucun n'a été aussi généreux que toi.
Je parle du personnage. Hein.
Oui, oui.
Je vous parle du Popek qui, pour fêter son anniversaire de mariage,
oui,
préfère y aller seul.
Je vais vous dire
une chose.
Parce
que ça lui reviendra trop cher.
J'ai vu tellement dans les villages où je suis allé des gens comme ça. Je me suis assimilé. Mais si je joue le bosseron, si je joue le... C'est pas drôle. Alors, j'ai pris tous leurs défauts. Alors, c'est facile de dire. Le français, il aime bien ça. Tant qu'on tape sur les autres, il est d'accord.
Il est pingre, il est macho.
Alors, le juif et la bandeau. Vous savez, le père de Molière était très rabbin et il n'était pas juif.
Mais là, on parle de ce personnage qui est juif, Ashkenaz.
Oui.
Donc, comme vous le dites,
puisqu'on nous affuble de ce défaut-là, prenons-le. La dérision, on n'a pas besoin des autres pour la faire, on la fait nous-mêmes.
Mais c'est la définition de l'humour, c'est effectivement grossir
certains défauts. Non, c'est la définition du juif par les antisémites.
Donc, vous jouez...
Donc, on est bien content qu'il existe.
Vous jouez sur les préjugés des antisémites, en fait.
Pas du tout. Moi, je pense qu'à faire rire les gens.
Est-ce que Popek, je parle bien du personnage, est-ce qu'il est raciste ?
Peut-être. Je peux vous raconter une petite histoire que j'ai coupée. Quand je disais qu'un noir soit élu et réélu aux États-Unis, ça prouve que l'Amérique, c'est quand même une grande démocratie. Moi, je souhaiterais qu'en France, sur 10 députés, sur 10 ouvriers, sur 10 employés, il y ait au moins 3 noirs, 3 personnes de couleur. De même qu'il serait souhaitable que dans chaque équipe de football en France, il y ait au moins 3 blancs. Pas plus, sinon qui c'est qui va marquer les buts ? Alors, un copain m'a dit, coupe ça, parce que si un journaliste prend que ta première phrase, tu passes pour un raciste.
Alors, ce double avec lequel vous vivez, quand même, il a provoqué des conflits entre Popek, le golem, comme vous dites, et Jean Herbert, l'amoureux du répertoire.
Bien sûr. J'aurais voulu être comme Terzieff, comme Lucquenet, comme d'autres, comme Huster, jouer des tas de rôles. Alors que Popek lui a tout volé. Popek existe alors que Herbert n'existe pas. Quoi. Herbert n'existe pas. Comme comédien, je ne me serais jamais sorti des 10 000 comédiens qu'il y a en France. Jamais. Popek, il n'y en a qu'un, c'est moi.
Mais c'est pas vous en même temps, c'est ce que vous dites. Est-ce que dans vos cauchemars...
Oui,
vous...
c'est pas moi, ma femme vous dira que c'est moi quand même.
Est-ce que dans vos cauchemars, vous lui réglez son compte ? Est-ce qu'il vous arrive de vouloir tuer Popek ?
Ah non, je lui dois trop. Je lui dois tout. Je dois tout, madame, à mon personnage. Non seulement je ne lui en vais pas, je le revendique comme je revendique mon prénom, Yudka.
Vous le revendiquez et il vous revendique, il vous vampirise. Hein. Vous êtes là, puis tout à coup, hop, il apparaît.
C'est exact. C'est un D-book. Die Buch, c'est une très belle pièce polonaise. C'est un ancêtre qui entre dans le corps d'une personne et elle parle avec la voix. Et les rabbins, il y a une réunion de rabbins qui exhortent le Die Buch à sortir de ce corps pour la laisser en paix. Il faut être une sacrée comédienne pour pouvoir parler avec une voix d'homme comme ça.
Donc vous êtes possédé par l'ancêtre ?
Je pense, oui. Oui, oui, c'est exact. Ce que vous dites est vrai. D'abord, je m'aperçois quand quelqu'un me dit « Je suis devant Popek, mais c'est vraiment vous ?» Je suis un mythe, je suis quoi je... Donc je m'aperçois que c'est Popek qui... C'est pas Jean Herbert.
En même temps, ça vous est arrivé de revenir au cinéma pour des rôles dramatiques. Je pense
oui.
Au film de Polanski, le pianiste, oui. Palme d'Or, en 2002. Vous y apparaissez rapidement dans une scène d'une minute trente. Vous jouez quel rôle ?
Je joue le rôle de Rubinstein. C'est-à-dire un pauvre type qui a été gazé, bien sûr, et qu'on peut voir à la télé, parce que les SS filmaient dans les ghettos, et il a été filmé. Donc il a voulu que je joue ce personnage-là, mais moi je ne savais pas, quand il m'a dit au téléphone Rubinstein, j'ai pensé qu'il parlait du pianiste. Et donc je lui ai dit, Je ne suis pas musicien, mais je sais jouer la marche turque. C'est tout ce que je sais.
Alors, il y a eu ce film, il y a aussi en 2015, Ils sont partout, un film d'Ivan Attal.
Ivan Attal, un garçon extraordinaire,
plein de talent. Où vous jouez le rôle d'un survivant de la Shoah. On ne va pas rentrer dans ce film,
oui,
mais
oui.
Je me demandais...
J'ai pas voulu jouer le rôle, d'abord.
Je me demandais si vous n'auriez pas, vous, souhaité qu'on vous appelle juste pour faire l'acteur tout court, plutôt que de vous retrouver toujours cantonné, si j'ose cette expression, au rôle du petit Yehuda.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai accepté parce que d'abord, j'ai jamais été aussi bien payé pour faire deux jours de tournage. Et il est vrai que dans ce film, qu'on a tourné dans une maison de retraite, où il y avait beaucoup de maladies d'Alzheimer, il y a une infirmière qui m'a dit « Si vous n'aviez pas la notoriété que vous avez, je ne vous aurais pas laissé sortir. » Tellement la scène que vous avez faite, vous paraissiez être...
Mais qu'on vous ramène toujours à cette identité juive, c'est problématique pour vous ?
Non, je m'en suis toujours échappé. Alors, la preuve dans la pièce que je répète là. Mais vous avez raison, il m'y ramène quand même.
La pièce que vous répétez en ce moment, c'est Des larmes de crocodile.
Ouais, vous avez raison, il m'y ramène quand même.
את יכולה לשיר את השיר?
Pourriez-vous me fredonner une comptine de votre enfance?
Ah, yiddish alors. Weiss mir in beste Schein, weiss mir in beste Schein. J'en ai plein sûrement. Il me faudrait ma guitare pour.
Ça revient avec la guitare.
Oui, c'est vrai.
C'est marrant. Hein,
ouais.
À côté de ce baluchon de black en yiddish que vous faites vivre avec Popek, qu'est-ce qui vous reste de cette langue?
Des mots d'enfant. Plein de mots d'enfant. Tout reste nos œufs. Doris, Nozu, Eindl, Keble, Zokle, Schirel. D'ailleurs, ma femme me dit souvent mets tes chaussures, mets tes Schirel. Quoi encore? Apache Torres. Je vais te donner une fessée.
Vous n'avez pas grandi?
Hein?
Vous n'avez pas grandi, quoi?
Souvent, non. Ouais, ça, c'est ce que vous dites. C'est très vrai.
Est-ce que vous êtes déjà retourné à Ploiești? C'était la Roumanie.
Ploiești.
La Roumanie de papa.
Ploiești, c'était aussi la ville de la femme de Pierre Prévert.
Mais c'était aussi.
Papa était de Ploiești.
Le coin de papa, quand même. Est-ce que vous y êtes retourné?
Non. Je vais dire des choses méchantes.
C'est-à-dire?
J'ai aucune raison d'aller dans des pays d'où mon père est parti parce qu'on les chassait ou parce qu'ils fuyaient les pogroms. Je vois pas pourquoi j'irais.
Et Varsovie, la Pologne de maman?
Si j'avais pas... ma sœur m'a souvent reproché de ne pas aller à Auschwitz. Non, j'irais pas. Et puis...
Pourquoi vous n'irez pas?
Parce que j'ai pas envie d'y aller. Ma femme me reproche souvent de me retrancher sur l'histoire, alors ça suffit comme ça. Et puis, en Pologne non plus, parce qu'en Pologne... Regardez... J'ai vu un document dans lequel il y avait Rubinstein, le grand pianiste, en Pologne. Il y a une dame qui l'admirait, qui lui a demandé un autographe, une vieille dame, et qui lui a dit « Quel dommage que vous ayez tué notre Christ !»
Mais vous êtes retourné à Varsovie.
Oui, deux fois. Une fois pour Polanski et une autre fois pour un film qui n'a pas marché. Et donc, oui, j'ai voulu visiter l'endroit où était le ghetto. C'était un jour, il pleuvait très très fort, très très fort, très très fort. Je sais où vous allez en venir. Vous allez me demander de lire le poème
oui,
que j'ai écrit.
Que ça vous a inspiré un poème?
Oui.
Chaussez vos lunettes puisqu'il n'y a pas de caméra.
Oui, ça c'est vrai.
D'une coquetterie adorable, Popek. On vous écoute pour En sol majeur.
Dans le ghetto de Varsovie, je suis allé un jour de pluie. Terre déserte, terre de deuil. Une larme au coin de l'œil. J'ai parcouru le long des murs, murs invisibles, murs effacés. Plus un souffle, plus un murmure de tout un peuple assassiné. De ce cimetière invisible, je me suis éloigné, leur demandant pardon de ne savoir prier.
Est-ce que c'est vrai que vous ne savez pas prier ?
Ben non, non, non.
J'ose pas dire popek, hein, parce
non,
que...
Non, non, non. Mes prières, je peux vous les dire tous les jours, c'est les poèmes. Alors ça, les poèmes, je m'endors avec mes poèmes. Je m'endors avec Baudelaire, je m'endors avec Prévert, je m'endors avec ça.
Vous êtes fâché avec la religion ?
Un peu.
Est-ce que parfois vous faites un lien avec ce personnage ashkénaze qui fait rire, donc Popek, et cet enfant caché que vous avez été pendant la guerre ?
Non, aucun. Aucun. Non, non.
Vous êtes heureux de faire rire ?
Ouais. C'est devenu une drogue. Ouais, je reconnais, oui.
En tout cas, cher Popek, vous avez peut-être toujours en vous le génie de l'enfance, comme un certain Mozart.
Dernier point avec Mozart, qui a écrit une sonate en aluminium, en it et mineur, intitulée « Les marchés au Tirque ». Et moi, parallèlement à sa musique, j'ai écrit une sonate, un poème en vrac, intitulé « Les marchés au Tirque ». Si vous voulez, je peux vous en chanter un morceau. Je vais vous chanter la vie de Moïse, mon ami le vieux marchand des calçons moltonnés, qui va de ville en village sur la place des marchés. Près de lui, il y a les bouquinistes, la mercière et les gros bouchers, et la jolie petite fleuriste à l'accent des Méditerranées. Et je vois encore ce baratineur m'apprendre à monter, à démonter, à déballer, sa voix comme une écrisse, les vous fendez le cœur. Approchez, touchez-moi, ça ce n'est pas de la gnognotte. Approchez, choisissez, essayez, c'est l'adopter. C'est quand il fait froid qu'on se sent bien dans les tissus et que la fibre ne vous piquez pas les guilles, etc., etc. Quoi. Et c'est là que vous allez voir que nos points communs se rejoignent avec Mozart. Parce que si c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, le tissu aussi adoucit les mœurs. Parce que Mozart vous réchauffe l'âme par la musique. Et moi, je vous réchauffe les quilles par les molletons.
Mozart n'a qu'à bien se tenir. Popek, même pas mort, et en tournée, aujourd'hui même, en Ardèche, à la salle Jean Ferrat de La Blachère, en tournée également avec une pièce Les Larmes de Crocodile. C'est au théâtre de Puteaux près de Paris, le 2 octobre prochain, Mazel Tov. Popek, c'est à lire également aux éditions de l'Archipel, avec De qui tu tiens ce don-là. Merci à vous. En sol majeur, avec Caroline Filliette, Laura Pinto et Yasmine Chouaki. Vous savez quoi ? On vous retrouve demain avec une rediffusion autour de Géraldine Taubé. À demain.
Ça va, ça va.